divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission proposée et présentée par Frédéric Louis et Alexis Lacroix. Bonjour Frédéric.
Bonjour Alexis.
Bonjour à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Alors ce dimanche matin, on a le privilège de recevoir un membre du Grand Orient de France, Georges de Nonny. Vous êtes président de la Commission nationale de réflexion sur le développement durable. Et évidemment, comme l'intitulé de cette commission l'indique, nous allons consacrer la première partie de cette émission, notre discussion, à réfléchir aux relations qu'entretient la maçonnerie, et plus particulièrement la maçonnerie de l'obédience Grand Orient de France, avec la question écologique. Alors, entrons dans le vif du sujet, matter of fact, comme on dit dans une autre langue. Georges de Nonny, vous n'êtes pas sans ignorer que le Grand Orient est très connu en France, mais au-delà, bien sûr, par un certain nombre de combats structurants, le combat pour la République, le combat pour la laïcité, le combat pour les droits de l'homme. Il l'est moins, en revanche, pour la sensibilisation du public à la question écologique. À quoi cela tient-il? Et est-ce en train de changer, d'après vous, Georges de Nonny?
Bonjour Alexis, bonjour Frédéric. Vous dire le plaisir que j'ai à me trouver aujourd'hui en ce dimanche matin avec vous. Alors un paradoxe déjà, le Grand Orient de France a toujours considéré la question de l'écologie. Très rapidement, lorsque on feuillette les recueils ici ou là, par exemple, dès 1978, un grand maître, Michel Barouin, évoquait déjà l'environnement. La commission nationale que j'ai l'honneur et le plaisir de présider a été créée en 2008. Après, ce que nous avons finalement, c'est le reflet du fonctionnement, je dirais, démocratique, républicain du Grand Orient de France. Au Grand Orient, c'est, vous le savez, c'est une loge, un délégué, une voix. Donc l'obédience a toujours donné les moyens aux frères et aux sœurs de travailler sur cette thématique-là. Après, il fallait que les frères et les sœurs se l'approprient.
Absolument. Et peut-être, Georges de Nonny, l'image publique d'une institution, quelle qu'elle soit, est liée à un certain nombre de combats et ça n'est pas si facilement qu'on l'a fait évoluer. C'est peut-être une piste explicative également.
Oui, certainement. Mais si vous voulez l'évolution, pour ne pas être trop long, moi, j'évoquerai deux voies. D'une part, le maçon est aussi un citoyen. Et vous le savez, pendant un certain temps, les citoyens ont douté de l'impact réel du dérèglement climatique.
Absolument, on va y venir.
Oui. Rappelez-vous, climato-sceptique, etc. D'une part, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'actualité est tellement prégnante qu'elle s'impose à nous. Et puis, écoutez, vous me le permettrez aussi, les travaux également de notre commission aussi à contribuer à sensibiliser l'obédience.
Alors, Georges de Nonny, nous sommes ensemble avec Frédéric Louis, bien sûr. Comme tous les mois, le dimanche matin, nous sommes ensemble autour du Grand Orient de France. Je le rappelle, vous êtes le président de la Commission nationale de réflexion sur le développement durable. Vous venez de le dire. Effectivement, aujourd'hui, il est impossible, à moins de vivre dans une grotte, de ne pas observer d'une manière ou d'une autre le fait que les effets du changement climatique sont observables et sont tangibles, sont manifestes dans beaucoup d'aspects de notre existence. Est-ce qu'on peut dire que, de ce point de vue-là, le Grand Orient de France partage l'inquiétude d'une large partie de la communauté scientifique internationale relativement à l'accélération, à l'accentuation, voire à l'aggravation de ce processus en cours de changement climatique?
Oui, l'obédience le partage pleinement. Et vous savez d'ailleurs, on y reviendra peut-être par la suite, l'humanisme que nous comportons, si vous voulez, s'est toujours développé sur des bases scientifiques. Donc pour les maçons, asseoir la connaissance au départ, la réflexion philosophique sur des faits avérés scientifiques est très important. Donc nous partageons cette inquiétude. Je vous signalerai quand même, cette inquiétude est quand même probante, puisque des organismes dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont popularisés comme le GIEC, a été créé en 1988. Un autre organisme qui est l'IPBS, qui est l'équivalent du GIEC, alors le GIEC c'est pour le climat, l'IPBS c'est pour la biodiversité, a été créé en 2012. Ces organismes qui semblent aujourd'hui familiers sont restés très longtemps dans la pénombre.
Alors, quelles sont les manifestations, selon vous, qui donnent le plus à penser aux maçons que vous êtes, au président de cette commission de réflexion sur le développement durable, les manifestations les plus saillantes, les plus graves aussi, les plus préoccupantes du changement climatique, selon vous, Georges Dodoni?
Manifestation en tant que dégradation, vous voulez dire? Oui, ben écoutez, je pense qu'il suffit aujourd'hui, malheureusement, de se rapporter à l'actualité quasi quotidienne. Et au niveau, là aussi, si vous voulez le lien, l'universalité du mal, je dirais dans ce cas-là, des méga-feux ici, des pluies diluviennes ici, des questions de sécheresse. Regardez aujourd'hui comme le problème de l'eau est devenu prégnant. Et tout de même, l'eau est constitutif de l'être vivant. Cette question est vitale.
La théorie de l'anthropocène, on va en dire un mot dans un instant, souligne que l'activité humaine est quand même très largement à l'origine du processus en cours que nous expliquons, que nous décrivons ensemble ce matin, Georges Dodoni, dans l'émission du Grand Orient. Alors, est-ce qu'il n'y a pas paradoxalement un bon côté de cette constatation scientifique, à savoir que l'activité humaine étant responsable, il suffirait d'en changer en partie l'orientation, le sens, peut-être l'ampleur, pour freiner le processus en cours?
Oui, tout à fait. Votre remarque est extrêmement intéressante et mérite d'être soulignée et d'être déclinée. Effectivement, l'humain est au centre de la problématique. Et vous me permettrez, puisque nous travaillons dans un contexte de recherche maçonnique, d'utiliser l'image géométrique du triangle et des trois points. À la fois, l'homme a une pointe du triangle, en bas, mettons-le. Il est victime. D'autre part, à l'autre pointe du triangle, c'est sa base, il est responsable. Mais ceci est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle d'espoir, puisque si nous connaissons les causes, on peut avoir cette capacité à trouver les propositions de remédiation. Et c'est donc la troisième pointe du triangle. Et tout ça, imaginons ce triangle-là, victime, responsable, proposant, curateur, et au milieu quelque chose qui clignote, mais pas en rouge, qui clignote en vert. L'avenir, le futur du vivant et de la nature est possible.
Alors ça clignote en vert, vous nous donnez donc des raisons d'espérer. Ce matin, dans divers aspects de la pensée contemporaine, Georges Dodoni, nous sommes ensemble avec Frédéric Louis. Je rappelle que vous présidez l'importante Commission nationale de réflexion sur le développement durable du Grand Orient de France. Ça clignote en vert, dites-vous. Est-ce que vous avez l'impression que les frères, les sœurs rassemblés au sein de ces commissions de réflexion sont en train de produire des solutions, en quelque sorte, pour que notre habitat sur Terre soit durable et qu'il ne soit pas menacé par un caractère irréversible du changement climatique?
Oui, tout à fait. Les messages, les réflexions. Déjà, nous pouvons le rappeler, l'obédience est un grand laboratoire de réflexion au service d'une entité, d'une structure, d'un mode de société auquel nous tenons beaucoup, la République, avec ses trois piliers, liberté, égalité, fraternité. Donc oui, c'est un message d'espoir que les frères souhaitent donner à la République, parce qu'aujourd'hui, cette République est en panne. Aujourd'hui, les messages qu'on nous donne sont des messages de catastrophe et de peur, d'où l'échec d'une certaine écologie politique qui est répulsive. Nous estimons qu'une obédience, une grande obédience comme la nôtre, peut donner un message d'espoir.
Qu'est-ce qui vous permet justement, Georges Dodoni, de la qualifier de répulsive, cette écologie politique que vous semblez viser dans votre propos?
Alors ce propos, forcément, est très schématique et très rapide, donc pas le temps de le développer. Ben, ne serait-ce que cette écologie-là ne s'impose pas sur le terrain sociétal. Elle n'avance pas, et elle n'avance pas pourquoi? Parce que on est systématiquement dans la punition ou dans la catastrophe.
Georges Dodoni, quel pourrait être, au vu des travaux de la commission que vous présidez, la commission de réflexion du Grand Orient sur le développement durable, quels pourraient être les points, les items sur lesquels une nouvelle articulation de l'idée républicaine et du souci écologique des générations futures pourrait prendre corps selon vous?
Écoutez, il faut aujourd'hui, il serait trop présomptueux de se dire je laisse un modèle et je le remplace par un autre. Mais le modèle aujourd'hui, très capitalistique de l'économie, interroge. Interroge parce que on assiste à une forme d'accaparement des ressources naturelles de la planète, à l'origine de ce problème de dérèglement climatique, par quelques grandes multinationales. Où est l'humain dans ce dispositif? Alexis, où est-il? La maçonnerie, par sa sagesse, par son humanisme, peut et demande à ce que l'humain soit remis au centre de la réflexion et au centre du projet d'avenir.
Alors justement, Georges Denoni, c'est très intéressant ce que vous dites sur le capitalisme. Ça n'est peut-être pas le capitalisme dans son essence, c'est le capitalisme dans ses développements planétaires actuels, le néo-capitalisme, comme on dit parfois dans une partie de la critique écologique. Y a-t-il justement des moyens, du point de vue de l'engagement maçonnique et rationaliste, de contrecarrer cette évolution globale, selon vous ?
Oui, tout à fait, mais je dirais il y a tout à fait moyen de la contrecarrer, puisque on sait d'où est son, une fois encore, je reviens à mon triptyque, on sait qui est à l'origine. L'humain est à l'origine de ses propres maux. Donc dans ce cas-là, l'humain peut être aussi à l'origine d'une amélioration, mais une fois encore, basé sur le respect, basé sur trois grands piliers, si vous voulez, qui sont nécessaires aujourd'hui à la réflexion économique et qui ne sont pas antinomiques, qui sont l'universalisme, qui sont l'humanisme et qui sont l'émancipation.
Alors justement, c'est passionnant. Georges Denoni, nous évoquons les relations complexes mais en même temps étroites de la maçonnerie et de l'idée écologique, du souci écologique, notamment de protection de la biosphère et aussi de léguer un monde aux générations futures qui soit un monde habitable, un monde viable. Vous êtes président de la commission qui est chargée de la réflexion sur l'écologie. On l'appelle développement durable, mais au fond, c'est la même chose. On le sait, l'idée de progrès est au cœur de la pensée du siècle des Lumières. Elle repose d'ailleurs sur un pari, sur la diffusion de la connaissance, sur l'amélioration des techniques, etc., etc. Elle a produit évidemment un très grand nombre d'avancées tout à fait bénéfiques dans la société occidentale. Comment est-ce qu'il faut aujourd'hui aborder, selon vous, cette idée de progrès du point de vue du rationalisme maçonnique ?
Si vous voulez, c'est l'idée d'anthropocène que vous évoquiez auparavant.
Il faut peut-être la définir,
voilà,
très
exactement.
Rapidement.
Ouais, ouais. Du coup, l'anthropocène, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la domination. Domination, c'est-à-dire c'est vouloir donner à l'homme, par les techniques, le moyen de dominer la planète et de dominer la nature. Ceci pose un réel problème et les conséquences, nous les avons sous les yeux, c'est les méfaits du dérèglement climatique. Aujourd'hui, il faut... Alors, faut pas condamner ça, puisque... Dans l'histoire, lorsque l'humanisme s'est développé, c'est dans un contexte où il était important que l'individu qui était soumis à des pressions à l'époque religieuses ou royales puisse devenir s'émanciper et puisse devenir libre. Les conditions sont légèrement différentes aujourd'hui.
Ce que vous êtes en train de nous dire, je résume, c'est que la problématique de l'émancipation aujourd'hui, qui est au cœur des engagements d'une obédience comme le Grand Orient de France, elle est désormais indissociable de la problématique de la préservation de l'environnement et de la biosphère.
Et exactement. Et avec la prise en compte d'une réflexion et d'une action humaniste qui est nécessaire aujourd'hui et qui permettrait de contrebalancer ces méfaits mortifères que nous connaissons aujourd'hui.
Alors peut-être une proposition justement pour changer progressivement de modèle, passer à un capitalisme moins offensif, moins invasif.
Vous savez, on a des termes qui font peur parfois parce que on n'ose pas les aborder. La sobriété. La sobriété, c'est le respect de soi-même, c'est le respect de l'autre, et c'est être heureux, plus heureux, différemment. C'est, si vous voulez, le respect avant tout. C'est-à-dire que c'est intégré dans l'économie classique des éléments liés au vivant et à la nature.
Vous avez l'impression que les frères, les sœurs du Grand Orient, les 53 000 qui peuplent l'obédience aujourd'hui, sont réceptifs à cet appel à la sobriété, Georges Denoni ?
Oui, tout à fait, parce que lorsqu'on définit les termes correctement, pratiquer la sobriété, il ne s'agit pas de prendre une douche tous les jours froide et sans lumière, si vous voulez. C'est quand même autre chose, c'est un mieux vivre, et ce mieux vivre respecte l'humain.
Merci infiniment Georges Denoni. Est-ce que vous êtes un homme de la sobriété, Frédéric Louis ?
On va dire que j'ai quelques progrès à faire.
Voilà, c'est à vous, cher Frédéric.
Merci, mon cher Georges, pour cet entretien. Donc, il me revient le plaisir de vous présenter les événements de ce mois de mai. Auparavant, je souhaitais revenir sur quelques événements récents. Nous avons commémoré le 15 avril à Toulouse les 250 ans de l'appellation Grand Orient. Le 27, il y eut les rencontres Lafayette, co-animées avec la Grande Loge Nationale Française rue Cadet. Et enfin, événement majeur, s'il en est, l'hommage aux martyrs de la Commune de Paris, le 1er mai, au mur des fédérés, en présence des obédiences amies, le droit humain, la Grande Loge Féminine de France, la Grande Loge Mixte Universelle et la Grande Loge Mixte de France. Le discours prononcé par le grand maître du Grand Orient de France est d'ores et déjà disponible sur les réseaux sociaux. Parmi les nombreux événements du mois de mai, je citerai à nouveau la commémoration des 250 ans. Nous étions hier à Nancy et nous serons le 20 mai à Marseille, à la Bourse du Commerce. Le 10 mai, pour la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage, une délégation du Conseil de l'Ordre sera présente au Panthéon pour rendre hommage à Victor Schœlcher. Dans le cadre des chantiers de la République, deux conférences publiques, le 16 mai, au siège de la rue Cadet, sur le thème « La République a besoin d'être défendue », avec comme intervenants Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, et Antoine Bristiel, qui est le directeur du département Opinion de la Fondation Jean Jaurès. Et toujours dans le cadre des chantiers de la République, le 26, toujours rue Cadet, « Les Lumières à l'heure du numérique », une conférence publique animée par Gérald Bronner, sociologue. Les universités maçonniques également se poursuivent. Après la conférence publique que nous avons eue jeudi à Calais sur École républicaine, laïcité, transmission et liberté d'expression, la prochaine se tient le 23 mai à Albi sur le thème « Laïcité et formation du citoyen ». Un ciné-débat le 31 mai rue Cadet, une projection du film « Histoire d'A » de Charles Belmont et Marielle Isartel. Et enfin, le 11 mai, une conférence publique à Londres du grand maître du Grand Orient de France sur la franc-maçonnerie au XXIe siècle. Vous retrouvez, comme tous les mois, toute cette actualité sur notre site www.godf.org. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook.
Merci beaucoup, cher Frédéric Louis, pour ce très beau programme. Alors, je me retourne vers vous. Il nous reste, Georges, de donner une petite minute à peu près. On fête les 250 ans de l'appellation de l'obédience, le Grand Orient de France. À cette occasion, qu'est-ce que vous aimeriez rappeler, justement, de fondamental sur cette articulation de la République et de l'écologie dont nous avons fait le fil rouge de cette émission?
Écoutez Alexis, un événement, non pas un événement à venir, mais un événement qui s'est passé en début d'année, là, au mois de janvier, mais qui rentre dans ce contexte-là large, où l'obédience et le grand maître a décidé de remettre le prix du Grand Orient de France à Francis Allais.
Ah, absolument, il faut dire qui c'est, hein, c'est ouais, un biologiste, ouais, spécialiste des forêts primaires.
Exactement, et donc déjà, la personnalité... L'individu le méritait, mais en plus de ça, il est aujourd'hui à 80 ans, porteur d'un projet remarquable de régénération d'une forêt primaire en Europe.
Voilà, qui se situera probablement à la frontière de la France et de l'Allemagne. Enfin, c'est en projet, département de la Moselle, visiblement.
Exactement.
À suivre. Merci beaucoup d'avoir fait un tour par le Grand Orient et France Culture, naturellement.
Merci pour votre invitation.
Et très bon dimanche à vous.
Merci beaucoup.
C'était divers aspects de la pensée contemporaine, le Grand Orient de France. À la réalisation, Luc-Jean Reynaud. À la technique, Florent Bujon. Et à la coordination éditoriale, Claire Poinsignon.